7h47 minutes, bon mardi matin sous le soleil. Merci de commencer la journée avec nous à Rage Against le matin. Bien branché, bien sûr, à Boulevard 102.1. On connaît maintenant les résultats du rapport de la coroner Jeanne Kamel, suite, bien sûr, à la mort de la policière Maureen Bro à Louisville. Plusieurs recommandations à plusieurs niveaux, plusieurs domaines. Jeff, on parle beaucoup de santé mentale.
Notamment en termes de suivi de cas de santé mentale, parce que, pour rappel, Isaac Brouillard, l'homme qui est impliqué également, qui est décédé dans cette intervention-là, est celui qui a mis fin, malheureusement, à la vie de la policière Maureen Bro. Donc, c'est pour ça qu'on parle énormément de santé mentale dans le rapport de la coroner.
On va jaser de quelques aspects, quelques éléments là, du rapport de la coroner Jeanne Kamel avec le docteur Maxime Dussault-Laurendeau, qui est dirigeant et administrateur sur le CA de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Il est au bout du fil. Docteur Dussault-Laurendeau, bon matin.
Bon matin à vous.
Merci d'être là avec nous ce matin, docteur.
Merci de vous intéresser à un dossier vraiment important.
Ben d'ailleurs, commençons peut-être, règle générale, allons-y large, docteur Dussault-Laurendeau. Votre appréciation, que pensez-vous là, en général du rapport de la coroner?
C'est favorable, je vous dirais. En fait, c'est sûr qu'on va prendre le temps d'analyser le rapport dans son intégralité. Le rapport est quand même assez volumineux, mais à première vue, je vous dirais que les recommandations, on les accueille assez bien. Je pense que c'est très positif, ça va contribuer à améliorer un système qui a vraiment plusieurs problèmes actuellement. Donc, beaucoup de ces recommandations-là sont vraiment pertinentes.
Est-ce qu'il y a vraiment, à ce point-là, un manque de communication entre les différents secteurs? Lorsqu'on traite et on parle de santé mentale et les différentes personnes qui vont intervenir, est-ce qu'il y a vraiment, puis c'est ce qu'on peut lire là, lorsqu'on résume un peu le rapport, il y a quelques points qui nous parlent du manque de communication de différents paliers. Est-ce que ça existe réellement?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un problème qu'il faut vraiment régler. Ça touche donc un manque de communication entre les équipes au sein même du système de santé, entre le système de santé puis les autres intervenants, que ce soit là, avec la police, que ce soit avec les intervenants communautaires. Donc, l'information circule assez mal et on pense qu'effectivement, il faut revoir un peu comment ça fonctionne au niveau, peut-être au niveau des règles de la confidentialité, pour permettre une meilleure communication, par exemple, entre différents établissements. Il y a déjà des choses qui sont mises de l'avant, là, je pense, par le gouvernement pour faciliter certaines communications entre les intervenants, mais ça, c'est vraiment fondamental. Pour que le suivi soit bien fait, il faut que l'information circule correctement.
Et comment on peut faire justement pour améliorer cette communication-là? Je sais que Mme Kamel en glisse des mots, mais vous qui êtes sur le terrain, là, comment vous voyez la situation pour amener des pistes d'amélioration?
Comme je le mentionnais, il y a les enjeux de confidentialité, donc c'est très important quand même. C'est un droit fondamental de toute personne d'avoir droit à la confidentialité au niveau de son dossier médical, mais en même temps, dans le suivi multidisciplinaire, c'est important que les équipes puissent communiquer, les différents intervenants puissent communiquer entre eux, même si, par exemple, ils appartiennent pas au même établissement. Donc, ça, c'est un élément. C'est sûr qu'il y a des travaux qui sont en cours aussi là, au niveau de la hiérarchisation de la psychiatrie légale pour améliorer de façon générale le système de suivi des personnes qui sont sous mandat de la commission d'examen, comme l'était M. Brouillard-Lessard dans le présent dossier. Donc, c'est des accusés qui ont été reconnus non criminellement responsables. Donc, la responsabilité de les suivre est confiée au système de santé. Et là, donc, il y a des travaux qui ont cours pour essayer d'améliorer un petit peu comment on fonctionne à l'intérieur du système de santé, c'est-à-dire qui est responsable de quoi, donc au niveau de l'hôpital, qui est responsable d'assurer le suivi, donc d'avoir vraiment un responsable désigné à l'hôpital qui assure la coordination et la communication entre les différents membres de l'équipe qui sont impliqués, d'avoir aussi le bon centre, par exemple, qui va être impliqué avec le bon niveau de dangerosité. Il y a des hôpitaux plus régionaux, plus petits, plus généraux, qui peuvent prendre en charge certains cas. Puis il y a des moments dans le parcours d'un individu où c'est plutôt des services d'un institut plus spécialisé, comme l'Institut Pinel, qui peut être nécessaire en fonction de la gravité du cas, du niveau de dangerosité, etc. Donc, Il y a plusieurs choses qui doivent être revues dans le fonctionnement du système de psychiatrie légale. Il y a des travaux qui sont menés par le ministère de la Santé et différents autres ministères actuellement pour vraiment revoir ce système-là, l'améliorer, améliorer la coordination des différents acteurs, parce que c'est un système qui est très complexe. Donc, la corollaire Kamel met dans ses recommandations qu'il faut vraiment que ces travaux-là aillent de l'avant, puis on est vraiment, vraiment d'accord avec ça. On participe comme association à ces travaux-là. On pense que c'est vraiment primordial.
Oui, parce que dans le cas de M. Brouillard, si je ne m'abuse, bon, il était en liberté malgré le fait que même ses parents mentionnaient là, qu'il y avait un potentiel dangereux. Donc, c'est le type d'exemple d'homme qui aurait dû se retrouver peut-être plus dans une institut Pinel qu'en liberté à l'heure actuelle?
Pas nécessairement, dans la mesure où, en lisant un petit peu le parcours, c'est difficile de dire qu'il aurait dû être plus à Pinel qu'au centre où il était suivi. Par contre, il y a différentes choses qui sont mises en lumière. Donc, le fait que, par exemple, quand l'État se détériore, parce qu'il y a des moments où l'État est stable puis la personne peut être dans la communauté, mais d'avoir vraiment des moyens de suivre de façon étroite la personne dans la communauté, d'avoir des équipes vraiment spécialisées qui sont là, qui sont sur le terrain, et qui voit quand, par exemple, la maladie devient plus active, que là, on a puis qu'on a des moyens pour intervenir rapidement, puis dire, oh, là, ça va moins bien. Là, il faut que la personne revienne à l'hôpital, puis pas dans un mois, dans deux mois, quand il va arriver quelque chose tout de suite, parce que ça va moins bien. Donc, pour ça, ça prend des équipes autour des patients pour être capable de détecter que ça va moins bien. Ça prend aussi donc des leviers légaux pour être capable de ramener la personne en milieu institutionnel le temps que son état se stabilise. Donc c'est ça un petit peu la complexité de la chose, là, mais la coroner Kamel, encore une fois, elle suggère que ça prend des ressources additionnelles pour rehausser de façon très significative les équipes. Bien, on est tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est vraiment fondamental.
Justement, on va les chercher où, ces ressources supplémentaires-là? Est-ce que c'est des gens à qui on peut enlever d'autres tâches présentement? Est-ce que c'est des gens qui ne sont pas nécessairement dans ce domaine particulier-là, mais qui sont dans des domaines connexes, qu'on pourrait les apporter à faire des tâches dans ce domaine-là? Est-ce que ça va tout simplement prendre plus de monde?
Écoutez, ça, c'est une question qui est très difficile. Hein? On vit une pénurie de personnel dans le réseau de la santé, donc c'est évident que il n'y a pas de réponse simple à ça, puis c'est sûr que à notre avis, ça prend un ajout net de ressources. Là. Donc, je sais qu'on n'invente pas des ressources humaines du jour au lendemain, mais des gens avec aussi des profils donc cliniques donc qui sont capables de prendre en charge les gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis aussi des problèmes plus d'ordre criminologique généraux, je vous dirais. Là, donc, ce qui m'amène à parler du fait que le ministère de la Santé déploie en ce moment un certain nombre de criminologues dans les différents centres, là, ce qui est déjà un pas dans la bonne direction, là, d'avoir des criminologues dans les équipes, mais ça prendrait beaucoup plus, puis je pense que c'est ça qui est souligné là, dans la recommandation, c'est vraiment de rehausser, d'avoir des équipes. Éventuellement, nous, on pense que ça prendrait vraiment des équipes dédiées pour des clientèles qui sont qui ont des lourds problèmes de santé mentale et à la fois donc sont sous mandat de la commission d'examen. Donc, souvent, ces clientèles-là ne sont pas volontaires parce qu'ils ne se croient pas malades. Sont comme forcés de recevoir des services. D'un autre côté, nos services dans la communauté sont beaucoup axés sur la réadaptation, ce qui est super. On part, dans le fond, du désir des gens de se rétablir puis d'aller mieux. Mais donc, parfois, le mandat des équipes, c'est de partir de la volonté de la personne. Mais quand on a quelqu'un qui n'est pas volontaire, ça prend une équipe dont le mandat est de dire « Oui, je veux bien qu'on va aider cette personne-là à se rétablir, mais on a aussi un mandat de suivi, de monitoring, de surveillance de son état pour protéger le public, parce que c'est ça qui est confié à l'hôpital comme mandat par la commission d'examen quand quelqu'un est reconnu non criminellement responsable. Donc, il faut que les établissements soient capables de déployer des ressources pour appliquer ce mandat-là. Donc, je reviens à la hiérarchisation dont je parlais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un responsable clairement désigné dans chaque établissement de s'assurer justement, oui, il y a une surveillance qui est faite, puis si on n'a pas de nouvelles de la personne, bien, on cherche, puis on met des gens pour vraiment s'assurer que les conditions de libération sont respectées. Ça prend des ressources pour faire ça. Je pense que tout ça est bien souligné dans le rapport de la coroner Kamel. L'autre chose qu'elle souligne qui est intéressante, c'est elle propose un tribunal spécialisé en santé mentale, parce que c'est assez complexe. Il y a tout le volet criminel dont on parle depuis tout à l'heure, mais il y a le volet civil aussi. Quelqu'un qui n'a pas eu d'accusation, à ramener quelqu'un à l'hôpital parce qu'on pense qu'il va pas bien, qu'il y a un danger, puis ensuite, pour qu'il soit gardé, il y a la Cour du Québec qui peut ordonner une évaluation. Ensuite, ça prend une garde en établissement qui est également ordonnée par la Cour du Québec. Après ça, pour les soins, c'est la Cour supérieure. Donc, vous voyez, une complexité très, très importante. Puis tout ça relève de différents tribunaux. Avec le, il y a le TAC pour les accusés non criminellement responsables. Nous, on pense, puis on est tout à fait d'accord avec la recommandation de la coroner Kamel, de dire que ça prend un tribunal spécialisé en santé mentale qui viendrait chapeauter les enjeux civils et criminels. Tu sais, la notion de garde en établissement, la notion d'ordonnance de soins, la notion d'accusé non criminellement responsable. Puis donc, un tribunal idéalement administratif composé d'un panel de juges, là, un peu comme le TAC, la commission d'examen de fait actuellement, mais qui s'intéresserait pas juste à ça, qui serait capable d'ordonner des soins aussi, par exemple. Donc, parce qu'actuellement, un accusé sous commission d'examen, il y a des conditions à respecter, mais la commission n'a pas le pouvoir d'ordonner les soins. C'est la Cour supérieure qui a ce pouvoir-là. Puis là, ça prend assez d'autres critères, puis ça prend un refus catégorique. Puis, donc, vous comprenez que ce système-là est très complexe. Mais la coroner Kamel fait des recommandations qui sont très pertinentes, à mon avis.
Et quel est votre niveau de confiance, Dr. Dussault-Laurendeau, qu'on va appliquer ou aller de l'avant avec ces recommandations-là? Je pense à une personne pessimiste ou négative qui va dire « Ah, on a fait tout ça, puis on va-tu vraiment appliquer ce qu'on retrouve dans le rapport? On n'a qu'à penser à la commission Laurent où, des années plus tard, on n'applique pas des recommandations qu'il y a eu dans le rapport. » C'est quoi votre niveau de confiance qu'on va aller de l'avant pour améliorer la situation?
Écoutez, j'aime penser que je suis quelqu'un d'optimiste. Okay. À l'association aussi, on essaie de l'être dans la mesure où c'est des choses nous qui nous tiennent vraiment à cœur. Là, puis donc, on pense vraiment qu'il ne faut pas que ça repose sur une tablette. Écoutez, le gouvernement a mis en place un processus, par exemple, pour la révision de la loi P38. Si je ne m'abuse, là, ça a été lancé quelque part en 2023. C'est l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice qui a été mandaté pour faire cette réforme-là. Donc ça, on pense que ça doit aboutir. D'ailleurs, la coroner Kamel en parle dans ses recommandations également. Donc, il y a quelque chose qui est en marche. Je pense qu'il faut que ça aille de l'avant, que ça aboutisse. D'un autre côté, je parlais de la hiérarchisation des soins en psychiatrie légale. C'est quelque chose qui est sur les tableaux de bord depuis plus de 10 ans, mais là, on a vraiment l'impression que ça avance. Donc, oui, je dirais, je suis optimiste, mais il y a une mise en garde. Tu sais, ce serait pas le premier rapport, comme vous disiez, qui pourrait finir sur une tablette, mais on pense que c'est vraiment trop important pour que ça finisse comme ça. Là. Puis je pense que le gouvernement dépose un projet de loi bientôt, demain, si je ne m'abuse, qui va porter le nom de Maureen Brault, mais on pense que c'est ça. Là. Il y a plein de choses dans ce rapport de la coroner Kamel qui doivent vraiment être actualisées. Là, puis il faut vraiment lire attentivement chacune de ces recommandations.
Alors, j'allais juste dire que ça me rassure, vous êtes optimiste quand même. Là. Ça, c'est certain. Le docteur Maxime Dussault-Laurendeau, dirigeant et administrateur sur le CA de l'Association des médecins psychiatres du Québec, merci beaucoup pour la jasette ce matin. Merci pour votre temps, docteur Dussault-Laurendeau.
C'est moi qui vous remercie pour votre intérêt. Puis bonne journée à Québec.
Merci. À vous aussi. À bientôt. Très intéressant. Puis des réactions puis des textos qui rentrent aussi, qui sont bien intéressants.
Très intéressant parce qu'on voit à quel point c'est complexe à l'heure actuelle dans notre système traité de la santé mentale. Tu sais, ne serait-ce que présentement, ce que je comprends, c'est qu'on est one-on-one. Tu sais, moi, j'ai des problèmes de santé mentale. Tu es mon psychiatre, Reg. Puis là, je vais moins bien. Mais on est one-on-one. Puis là, toi, tu es dans l'obligation de respecter le devoir de confidentialité. Mm-hmm. Fait que c'est dur pour toi de dire « Ouais, faudrait-tu qu'on le remette à Pinel? Faudrait-tu que j'appelle la police? Faudrait-tu, tu sais? » À moins de cas vraiment extrêmes. Donc, c'est ce que la coroner veut faire en créant des équipes, en ayant un gestionnaire. Bon, on va être en mesure de mieux attaquer ces cas-là. Puis ça a donc bien l'air complexe en cours, un cas de santé mentale.
Ouais. Puis j'aime le texto qui est rentré. Je veux le lire là, tel que tel. Quelqu'un qui travaille dans le domaine, qui résume la situation, qui dit effectivement, au CLSC, le suivi est volontaire. Si le client ne veut pas de suivi et nous n'avions pas d'ordre de la cour, l'épisode de service est terminé. Les ressources pour hospitaliser quelqu'un sont beaucoup axées sur le respect des droits de la personne. Les intervenants doivent monter un dossier béton, ce qui, d'après moi, je présume, est quand même complexe et compliqué. La gestion de risque est à revoir. Nous tolérons trop de risques. Si nous donnions plus de pouvoir aux intervenants, nous n'aurions pas besoin de plus de personnel. Que ça, je trouve intéressant. T'sais, c'est pas besoin d'avoir nécessairement plus de monde. On sait qu'il manque de monde.
C'est ça.
Fait que là, donnons juste un petit peu plus de pouvoir à ces gens-là.
Exactement. Redistribuer le pouvoir, puis surtout venir spécialiser les gens dans le domaine de la justice en santé mentale qui leur permettrait justement de prendre action et de prendre des meilleures décisions pour les suivis des dossiers comme Isaac Brouillard, puis éviter justement une tragédie comme on l'a vécu.
Avant la pause, autre petit texto. Ben, gars, je te laisse y aller, Max, parce que quelqu'un nous a texté que c'est jam-pack Robert Bourassa à partir de Chauveau, direction sud. C'est compliqué un peu partout en ville.
Oui, vraiment. On va faire un petit tour. Secteur des ponts, là, c'est au rouge bien foncé. Par la 20 Est, ça commence un petit peu après la route Lagueux. Par la 20 Ouest, c'est particulièrement difficile à partir chemin des îles là, jusqu'au pont. C'est jam-pack. 73 Nord à partir de la rue Beaulieu. Pont de Québec, là, ben au rouge également en passant. La 40 direction ouest, ça commence à ralentir à peu près à la hauteur là, de Duplessis un petit peu avant, puis ça reste quand même difficile jusqu'à poignée Robert Bourassa. Capitale, direction ouest, très difficile entre Seigneurial et Laurentienne. Capitale Est, il y a encore quelques petits problèmes un petit peu après le boulevard Masson. Après ça, ça va reprendre dans le coin de Robert Bourassa. Sur Robert Bourassa directement, on l'a dit, là, vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est bien au rouge. Henri IV, direction sud, entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest, c'est au ralenti également. La route de la Bravo, ça faisait longtemps je ne l'avais pas nommé, fait que j'avais un petit blanc, mais route de la Bravo en direction, en s'en allant vers Shannon, avant l'entrée principale de la base de Valcartier, là, il y a un ralentissement qui est quand même considérable. Laurentienne, direction sud, entre la rue de la Faune et le boulevard Jean-Talon, c'est assez difficile également.
Pas facile ce matin, patience est de mise. Bon, peut-être un petit peu trop tard pour vous dire de partir un petit peu plus tôt, mais gars, c'est fait, là, si vous voulez vous rendre à destination à la bonne heure. Merci de nous informer de ce qui se passe sur les routes, 88 971 1021, et merci d'être bien branché. À boulevard! 11h.